Bonjour Patrick Martin.
Bonjour.
Vous êtes donc de passage ici en Côte d'Or dans le cadre de votre candidature pour la présidence du MEDEF national. Vous échangez avec les chefs d'entreprise. David Buté, ici présent, président du MEDEF Côte d'Or. Quelle est la teneur des échanges? Sur quel sujet vous sentez que vous êtes attendu?
Alors permettez-moi de vous dire d'abord que je viens ici avec beaucoup de plaisir parce que j'ai vécu à Dijon et que ma fille est née ici. Et puis que j'ai une grande amitié pour David Buté et du respect et de l'admiration pour tout ce qu'il fait avec tous les adhérents du MEDEF. Bon, je pense que nous, chefs d'entreprise, on a une légitimité, on a une forme de reconnaissance de la part de l'opinion publique, on le voit dans tous les sondages, alors que nous-mêmes on se convainc qu'on n'est pas aimé. Pourquoi? Parce qu'on a fait face à nos responsabilités sur l'emploi, sur l'apprentissage, qui est un sujet à mes yeux très important. On a fait face à nos responsabilités dans la période Covid, et donc on a un crédit aux yeux de l'opinion publique, aux yeux de nos salariés, sans que j'enjolive trop les choses. Et on est en face d'une situation qui, à certains égards, est préoccupante, avec une conjoncture qui quand même se durcit. Je ne parle pas de la conjoncture pour les vins de Bourgogne, qui est excellente, et tant mieux d'ailleurs. Mais d'une manière plus générale, c'est vrai dans le bâtiment, il y a un ralentissement des rentrées de commandes dans l'industrie, donc il y a un certain nombre de secteurs qui sont, je dirais, sur le fil du rasoir. Mais au-delà de ça, on est confronté à une compétition internationale qui est virulente, et singulièrement avec les États-Unis, qui donnent des grosses subventions à leurs entreprises, aux entreprises, y compris françaises, qui viennent s'installer sur leur territoire, avec un prix de l'énergie qui est sensiblement inférieur. On a ce sujet-là. On a toujours le sujet des tensions de recrutement, donc un énorme sujet auquel moi je suis très très attentif, qui est celui des formations, des compétences à tous les stades de la vie. J'ai parlé de l'apprentissage tout à l'heure, mais on va se mobiliser tous, en tout cas si je suis élu, ce sera le cas, pour accompagner la réforme des lycées professionnels, qui est un vrai enjeu national pour les jeunes qui sont dans ces lycées, pour commencer, mais aussi pour nos entreprises. Et puis on a quand même une situation des finances publiques qui est assez préoccupante, donc il va falloir que nous, entrepreneurs, les 190 000 entreprises que réunit le MEDEF, avec 10 millions de salariés, je le rappelle, eh bien, on fasse valoir notre point de vue pour que ce pays, finalement, renoue avec l'ambition. Moi, c'est ça le thème de ma campagne, se redonner une ambition pour la France, une ambition pour le MEDEF, et qu'on le fasse. Je suis également très attaché à ça, dans le cadre d'un dialogue social exigeant, bien sûr, mais très riche. Et on a fait la démonstration, encore ces dernières semaines et ces derniers mois, qu'on est capable d'aboutir à des accords sur des sujets que l'État ne sait pas gérer.
Vous nous parliez des problèmes de recrutement. Quels sont les secteurs, les principaux secteurs qui sont toujours touchés aujourd'hui par ces problèmes?
Alors pour tout vous dire, moi d'abord en tant qu'entrepreneur, mais également au titre du MEDEF, président délégué à ce jour, je sillonne les territoires, je le fais toujours avec beaucoup de plaisir. Et ce que je peux vous confirmer, parce que vous le savez, c'est qu'il y a des tensions de recrutement dans tous les territoires, dans tous les secteurs d'activité et à toutes les tailles d'entreprise. Donc ça va jusqu'à des niveaux ingénieurs et plus, mais également sur les qualifications les plus faibles. Donc c'est un vrai défi pour nous. Parce que c'est ça qui nous sortira de l'ornière. C'est si on continue à créer de l'emploi, si on continue à générer de la croissance, ça permettra de distribuer du pouvoir d'achat, ça permettra d'équilibrer nos régimes sociaux. Oui, je vous confirme que ces tensions existent encore.
On a beaucoup parlé à un moment, il y a quelques mois encore, des tensions dans le secteur de la restauration, l'hôtellerie-restauration. Est-ce que ça va un petit peu mieux quand même dans ce secteur-là, par exemple?
Alors ça va un petit peu mieux, ça renvoie, c'est pas la seule réponse à ce que je vous disais de la réforme des lycées professionnels qui intéresse tous les secteurs, mais notamment l'hôtellerie-restauration. Je vais visiter dans 15 jours un lycée professionnel de l'hôtellerie-restauration à Gien. Donc ça s'est un peu amélioré, mais ça ne suffit pas, alors même que les entreprises de l'hôtellerie-restauration, leur syndicat professionnel, l'UMI, ont procédé, il le fallait, à des revalorisations salariales considérables. Derrière, il y a un sujet qui vaut pour l'hôtellerie-restauration, mais pour d'autres secteurs aussi, qui est celui de l'organisation du travail. C'est vrai que l'hôtellerie-restauration, mais ça peut être vrai de l'aide à la personne et d'autres secteurs encore, sont des secteurs où les jeunes en particulier acceptent plus difficilement dorénavant les horaires fractionnés, le travail du week-end. Donc charge à nous, chefs d'entreprise, de nous interroger, parce que c'est une filière, l'hôtellerie-restauration, qui est essentielle à l'économie du pays, qui est essentielle au territoire. Et je pense que dans une région gastronomique comme la vôtre, vous êtes particulièrement placé pour le savoir.
Je suppose que le sujet de l'inflation, ça reste encore d'actualité, on vous en parle tout le temps, même si on entend dire dans la presse ces derniers jours que ça va un petit peu mieux pour les produits alimentaires. Mais bon, ça reste quand même d'actualité pour les entreprises.
Oui, on a passé le pic de l'inflation, en tout cas sur les matières premières agricoles en particulier, mais c'est vrai de l'acier, c'est vrai de l'aluminium, c'est vrai d'un certain nombre de matières premières agricoles ou non. On a un effet base hein, qui est relativement favorable en ce moment, parce que l'année dernière, à la même époque, on était au pic de l'inflation. Moi, je reste très prudent sur le prix de l'énergie, par voie de conséquence, très en support de tout ce qui se doit d'être lancé pour nous rééquiper en nucléaire, en énergie renouvelable, mais donc un petit warning, je dirais, sur le prix et la disponibilité de l'énergie pour l'hiver prochain. Bon, après, la vraie difficulté, c'est que cette inflation, elle se propage au fil du temps, et ça n'est que maintenant, en définitive, qu'elle est la plus sensible sur les produits alimentaires, et on voit la consommation alimentaire baisser, on voit des changements de comportement d'achat sur l'alimentaire, parce que ça crée un problème de pouvoir d'achat, et donc, nous, entrepreneurs, on a fait face, hein. Vous avez vu ces études, hein, les salaires en moyenne des entreprises ont augmenté à hauteur de l'inflation générale, mais il n'en demeure pas moins qu'au cas par cas, notamment pour des ménages modestes, l'inflation alimentaire est un vrai sujet.
Et on a parlé du coup du problème donc de l'inflation qui est chère un peu aux ménages français. Justement, une autre question en fait, c'est la crise climatique. Quel est un peu votre point de vue par rapport aux entreprises? Comment est-ce qu'on peut gérer ce problème?
Alors, moi je vous rejoins complètement. Le grand défi qu'on a tous, hein, la nation, mais les entreprises, c'est de concilier croissance. Je reprends ce que je vous disais, pas de croissance, pas de salaire, pas de création d'emplois, pas de financement des investissements nécessaires pour la décarbonation de notre économie, pas d'équilibre de nos régimes sociaux. Mais il faut le faire de manière très résolue en perspective de la transition écologique et énergétique. Dans nos rangs, je peux l'affirmer, il n'y a plus un climato-sceptique. Il y a encore 2-3 ans, il y en avait. Alors, donc on avance, moi en tant que chef d'entreprise, hein, moi j'ai une entreprise de 3000 salariés, c'est mon entreprise, hein, j'avance très résolument sur ces sujets-là, en sachant bien que ça crée des contraintes quand il faut électrifier une flotte de véhicules, par exemple. Bon, mais ça crée aussi beaucoup d'opportunités. À nouveau, moi je sillonne la France, je vois les investissements qui sont lancés, par exemple, sur le recyclage du plastique au Havre, à Saint-Avold, sur la fabrication de panneaux photovoltaïques à Fos-sur-Mer, sur les gigafactories de batteries qui sont très concentrées dans le Nord, dans le bois par exemple, dans le Massif Central, il y a de très beaux investissements, autant de création d'emplois. Et notre enjeu, notre défi, autour de cette ambition sur la France que je veux porter, pour la France pardon, que je veux porter, ça va être d'organiser les glissements en définitive entre des secteurs qui immanquablement vont péricliter, je pense notamment à la sous-traitance automobile autour du moteur thermique, et puis d'autres secteurs qui au contraire vont nécessiter beaucoup d'investissements, beaucoup de formation, beaucoup de création d'emplois. C'est un très beau défi, mais il faut qu'on avance dans l'ordre en se donnant des perspectives.
Vous parliez des batteries électriques, des voitures électriques. Est-ce que vous trouvez qu'on ne va pas un petit peu trop vite sur ce sujet? On voit par exemple les Allemands là, qui sont en train de faire un petit peu machine arrière sur la décision d'arrêter les ventes de voitures thermiques d'ici à 2035. Quel est votre point de vue sur ce sujet?
Bah, vous me tendez la perche en même temps que vous me tendez le micro. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je crois qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et il faut que les législateurs, hein, au niveau européen, au niveau français, s'imposent un principe de réalité. Le fait d'interdire la vente de voitures à moteur thermique dès 2035, ça déstabilise complètement une filière industrielle, et son aval d'ailleurs, hein, je pense aux concessionnaires automobiles, hein, qui concernent les sous-traitants, qui emploient à l'échelle européenne des millions de salariés, et c'est vrai encore à l'échelle française, même si notre industrie automobile a un peu périclité depuis une vingtaine d'années. Pour illustrer mon propos, on a par exemple le sujet qui doit vous parler du zéro artificialisation nette ou des zones à faible émission. Moi, je partage complètement l'intention de ces textes, mais les calendriers sont intenables. Et quand on rentre dans la vraie vie, je pense que c'est le propre des entrepreneurs d'être empirique, d'être pragmatique, d'être dans la vraie vie, mais c'est vrai des citoyens aussi, on se rend compte que ces textes inspirés par des bonnes intentions sont très difficiles à mettre en œuvre, voire impossibles à mettre en œuvre. Donc moi, mon enjeu, l'enjeu du MEDEF, l'enjeu des chefs d'entreprise, c'est de, le cas échéant, en étant un peu raide, hein, de dire aux législateurs, on est d'accord sur les objectifs, mais impliquez-nous plus dans la définition de ces textes pour que le jour venu, on n'arrive pas à un effet paradoxal, c'est-à-dire braquer des gens, et singulièrement les ménages modestes, qui sont ni plus ni moins écologistes que vous et moi, que le législateur lui-même. Oui, mais à part qu'ils ne peuvent pas s'offrir des voitures électriques, ils ne peuvent pas faire rénover leurs logements qui sont des passoires thermiques. Et puis à un moment donné, on leur explique zéro artificialisation nette, qu'ils ne pourront pas construire le pavillon dont ils rêvent, alors que vu l'évolution des prix, ils ne peuvent plus non plus se loger dans les centres-villes. Voilà, c'est ce que j'appelle le principe de cohérence, qui n'est pas du tout un déni, qui n'est pas du tout un évitement. Il faut qu'on avance sur la décarbonation de notre économie, mais aussi sur d'autres sujets, dont l'inclusion.
Et quels sont vos moyens d'action pour discuter avec le législateur ?
Alors nous, on est au contact, moi en tant que président délégué, je peux en témoigner, on est au contact quotidien et des parlementaires et des ministres. Moi je vois le ministre de l'économie et des finances tous les mois, le ministre du travail tous les mois, avec Geoffroy Roux-de-Bézieux, bien sûr, le président actuel du MEDEF. On se rend à l'Élysée à peu près tous les deux mois. Et puis il y a une dimension à laquelle, de par mes origines provinciales et mon parcours militant au MEDEF, hein, pour avoir été président d'un MEDEF départemental puis régional, il y a des interlocuteurs dont on est très proche, dont David tu es très proche avec tout ton bureau, qui sont les élus locaux. Parce que, et tant mieux, il y a quand même beaucoup de décisions qui se prennent au niveau local, je parle des régions, des départements, des communes, et typiquement sur le zéro artificialisation nette ou les zones à faible émission, ou le versement mobilité qui paye de la part des entreprises les transports publics, on se doit d'être encore plus proche, mais dans un esprit de collaboration, pas de confrontation.
Juste, je veux revenir sur un aspect que vous avez abordé par rapport au gouvernement qui ne répond pas forcément à certains aspects. On a vu la bagarre entre le gouvernement et les opposants de la réforme des retraites. Qu'est-ce qui pêche selon vous à ce niveau-là, au niveau du dialogue social ?
Alors, autant, je le redis, on s'est emparé très constructivement avec les organisations syndicales, notamment la CFDT, la CFTC, FO également, de sujets très importants. Je pense au partage de la valeur, ou plus récemment encore, accidents du travail et maladies professionnelles. Autant, il n'y avait pas de voie de passage sur la réforme des retraites entre les partenaires sociaux, pour une seule raison, c'est que au mois de juin 2022, à son congrès à Lyon, la CFDT a fermé toutes les portes en disant on ne négociera ni sur la durée de cotisation ni sur le report de l'âge légal. Bon, ça n'enlève rien au fait que cette réforme des retraites, elle est nécessaire. Je voudrais insister sur un point, les entreprises n'en sont pas bénéficiaires. Ça n'apporte rien aux entreprises, la réforme des retraites, en tout cas directement. Mais ça n'a pas été suffisamment bien dit, suffisamment bien présenté. Cette réforme des retraites, elle est indispensable à l'équilibre durable de nos retraites par répartition. Sauf, vous le savez, à augmenter les cotisations, y compris salariales. C'est quand même les salariés qui payent 40% des retraites. Ou à réduire les pensions des retraités. Donc cette réforme est nécessaire. À la fin des fins, comme les partenaires sociaux, du fait de cette position de la CFDT, n'ont pas pu négocier, mais il est revenu à l'État de prendre la main. Dans un contexte avec une manière un peu compliquée.
David.
Vous, qu'est-ce que du coup vous pensez donc de cette nouvelle candidature ? Quel est un peu votre point de vue et sur, en même temps sur la question actuelle de ce qui se passe en ce moment en Côte d'Or et sur le niveau sur le territoire national ?
C'est beaucoup de questions à la fois. Alors, la candidature de Patrick, évidemment, moi, je l'accueille avec beaucoup de bonheur, puisqu'on se connaît depuis beaucoup d'années. C'est quelqu'un qui vient du territoire, et je pense qu'il l'a dit tout à l'heure, et ça, c'est très important. Quand on a été président d'un MEDEF territorial, d'un MEDEF régional, qu'on va au national, on a une vision, on n'oublie pas d'où l'on vient, et ça, c'est quand même super important. Tu parlais tout à l'heure des échanges qu'on peut avoir avec les politiques territoriaux. Il ne faut jamais oublier que les députés, ils sont dans nos territoires, même s'ils sont un peu hors sol pour une partie d'entre eux, mais ça, c'est autre chose. Et les politiques territoriales, notamment dans le développement économique, ça se fait au niveau des métropoles, au niveau de la région. C'est là où l'argent se draine pour qu'on puisse construire nos territoires. Donc c'est important qu'on ait cet échelon-là tous les jours. Alors, l'autre sujet, c'est que sur l'actualité économique de notre territoire, d'une manière globale, on est dans le plein emploi. Donc ça, vous le savez tous. On est d'ailleurs tellement dans le plein emploi qu'on a du mal à recruter, on l'a dit tout à l'heure. On a quand même quelques secteurs d'activité qui souffrent. On parlait de la sous-traitance automobile. Notre région est quand même très impliquée dans ce sujet-là. Il faut accompagner les transitions, et c'est le rôle de nos institutions et de l'interprofession qu'on représente. C'est de savoir comment faire glisser, et puis faire aussi se partager des expériences d'une fédération professionnelle à une autre, et nos institutions interpro sont très utiles pour ça, puisqu'on a cette vision, on va dire, en hauteur de tout ce qui peut se passer dans toutes les corporations ou dans toutes les fédérations, où on peut permettre de faire se rencontrer des problématiques ensemble, à l'instar de ce qu'on a pu mettre en place nous sur le territoire, par exemple pour du recrutement qui venait au départ de la viticulture et qui s'est partagé avec la métallurgie, et ensemble ils ont créé une plateforme pour aller chercher du monde. Donc c'est quand même pas banal, et c'était pas un mariage qui se voyait tout de suite au départ comme ça.
Merci.